France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, à l'occasion du lancement de mon tout petit France Inter, la radio numérique destinée aux 2-6 ans, on se demande comment les bébés voient le monde, que comprennent-ils de ce qui les entoure dès les premières semaines, les premiers mois de leur existence, comment pensent-ils, comment raisonnent-ils, comment leurs sens se développent-ils pour mieux appréhender leur environnement. Bref, je vous propose de percer quelques mystères du cerveau et de l'intelligence des bébés. Et vous, que vous inspire leur regard écarquillé, curieux sur notre monde, n'hésitez pas à intervenir au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter.
Grand Bien Vous Fasse, à lire et B.I.
Et on commence avec des rires de bébé, le rire d'un bébé. Bonjour Nawal Aboub.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences cognitives, spécialiste du développement du cerveau et de l'apprentissage. Et vous avez publié au Livre de Poche un très bon livre, La puissance des bébés, stimuler le cerveau dès le plus jeune âge. Bonjour docteur Arnaud Pfersdorf.
Bonjour Ali.
Vous êtes un expert habitué de cette émission. Vous êtes pédiatre réanimateur à Strasbourg, créateur de Pédiatre Online. Et on vous doit notamment un très bon livre également chez Hachette Bébé. Bébé premier mode d'emploi, une vraie bible pratique qui comprend 100 fiches qui répondent à toutes nos interrogations. Bonjour Jean-Rémy Hochmann.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret à Lyon et vous êtes le fondateur du Baby Lab. C'est quoi le Baby Lab en quelques mots?
En quelques mots, le Baby Lab, c'est une structure où on essaie de comprendre justement comment pensent les bébés, comment voient les bébés, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas aussi.
Et vous allez nous expliquer votre travail. Alors nous sommes tous émerveillés, enchantés quand nous croisons le regard écarquillé et curieux d'un bébé en se demandant « mais qu'est-ce qui se cache derrière ce regard ?» Mystère de ce regard que la science comprend de mieux en mieux, Nawal Aboub.
Oui, on a fait vraiment des bons géants dans la compréhension des bébés. Hein, donc ça nous a permis aussi de pouvoir revenir sur certaines idées reçues qu'on avait sur la vision du bébé, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, ce que disait, comme disait Jean-Rémy. Mmh.
Jean-Rémy Hochmann.
C'est vrai, et en même temps, l'espace de ce qu'on ne comprend pas est encore immense. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre.
On est tous fascinés par ce mystère, le mystère de ce regard, docteur Arnaud Pfersdorf, vous qui voyez des bébés tout au long de la journée dans votre pratique pédiatrique.
Alors, c'est extraordinaire. Et ouais, je trouve que la thématique de votre émission est fabuleuse. Moi, des bébés, j'en ai vu des milliers, et je continue à en voir. Et il y a un truc que je dis aux parents, quand je fais l'examen en maternité des premiers jours, du premier jour, surtout quand c'est un premier bébé, je leur dis, mais je pose le bébé avant de l'examiner et je leur dis, regardez, votre bébé est en train de vous parler. Mmh. Et évidemment, ils sont très surpris parce qu'ils disent, mais non, il n'a pas la parole. Je dis, si, il vous dit des choses, mais avec ses moyens à lui. Mmh. Les clignements d'yeux, les mouvements des bras, des mains, la position du corps, et ça, vous allez apprendre à le décrypter.
Nawal Aboub.
Oui, en fait, c'est justement ça que nous, on a étudié dans nos laboratoires pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils perçoivent de ce qu'on... Alors, effectivement, le regard, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de savoir à quoi ils sont attentifs. On sait très bien qu'un bébé qui va tout d'un coup vous regarder et puis fuir le regard, c'est que peut-être qu'il comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Donc ça, c'est des signaux aussi que, nous, en tant que scientifiques, on observe à la milliseconde. Mais en tant que parents, on se pose des questions, on se dit, bon, pourquoi ils me regardent plus? Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça, c'est des indices. Et puis, on a évidemment comment ils nous écoutent. À quoi il est attentif, qu'est-ce qu'il aime aussi, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est tous ces petits gestes qui nous aident à le comprendre.
Est-ce qu'il y a des idées reçues qui vous agacent quand on évoque les perceptions des bébés, Nawal Aboub?
Je pense que la pire, c'est qu'ils ne comprennent rien avant 3 ans. Je pense que celle-ci, c'est celle d'ailleurs qui a motivé l'écriture de ce livre. Mais du coup, sur justement ce qu'ils voient, pendant longtemps, on a dit l'enfant naît aveugle. Il ne voit pas, il ne perçoit pas les couleurs, que sa vision elle est floue, tellement floue qu'il ne voit pas vos visages. Et c'est vrai que ça, on l'entend encore. Enfin, moi, quand je fais des formations sur le terrain, j'entends encore ça.
Et qu'est-ce qu'il voit, docteur Pfersdorf, le bébé, dès les premiers jours, les premières semaines? Que voit le bébé, qu'il s'agisse de forme, de couleur?
Alors, un bébé à la naissance a les premières heures, les premiers jours, les paupières le plus souvent fermées, ce qui est ce qu'on appelle un petit blépharospasme, voilà, le temps qui s'habitue à l'ambiance environnante, la lumière l'éblouit un peu, et effectivement, comme vous venez de dire, les premières semaines, il voit en noir et blanc, petit à petit la couleur va s'installer, et il voit de très près. Et c'est amusant parce que quand un bébé, au bout de 8 jours, 15 jours, commence à ouvrir davantage les yeux, la première chose qu'il regarde quand il a le parent en face de lui, c'est pas les yeux du parent. C'est les cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est contrasté. Il regarde la frontière entre le front et les cheveux. Puis petit à petit, il va comprendre, avec ses yeux, ses échanges, le toucher, la parole, il va comprendre que là où ça se passe, c'est dans les yeux, justement.
Là où est la boube.
Alors moi, il y a quand même deux grandes découvertes que j'ai envie de vous partager. La première, c'est qu'avant même leur naissance, leur cerveau est capable de voir, en fait. On s'est rendu compte. Alors, ça, c'est une étude qui a été publiée, je me souviens très bien, je finissais ma thèse en 2015 et ça avait été un consensus de dire... ça avait été justement quelque chose qui avait choqué la communauté scientifique parce qu'on voyait in utero qu'en fait, il y avait des mouvements oculaires des yeux, pas pour n'importe quel stimuli. En fait, c'était des espèces de lasers qui faisaient justement, qui mettaient tout proche du ventre de la maman. Et ces lasers, ils n'avaient pas n'importe quelle forme. Soit ils ressemblaient un peu à une forme de visage ou alors c'était l'inverse, en fait. C'était un visage inverse. Et on se rendait compte qu'à 26 semaines, les bébés réagissaient plus, faisaient plus de mouvements des yeux sur justement ces formes de laser qui ressemblaient à des visages humains. Et cette publication-là, il y en a une tout juste qui vient d'être republiée en 2025 qui confirme ces résultats, ce qui montre bien que déjà in utero, la vision est non seulement prête, mais elle est fonctionnelle.
Jean-Rémy Hochmann.
Oui, c'est ce que dit Nawal, cette étude est absolument fascinante. Incroyable. En fait, ce qu'on voit, c'est que dès la naissance, et puis ça va être encore plus saillant dans les premiers mois, le bébé a des biais. Il y a des choses qui vont attirer son attention, qui vont probablement déclencher certains mécanismes d'apprentissage, et d'autres choses qui vont être moins intéressantes. Et notamment, il semble qu'il y ait un biais énorme pour tout ce qui seront les stimuli sociaux. Donc les visages, la parole humaine, là encore, bien avant la naissance, déjà dans le ventre de sa maman, le bébé apprend déjà des propriétés de la langue maternelle.
Et à partir de quel âge un bébé voit-il comme un adulte doté d'une bonne acuité visuelle ?
On dit à peu près autour de 4 ans. Mais peut-être qu'en fait on va aussi revenir dessus parce qu'on fait des découvertes chaque jour sur la vision hein, parce que comme on le pensait il voit flou, non il voit pas flou hein, il voit précisément des choses comme les visages, les yeux, enfin il repère tout ça, même la direction du regard, ça c'est dès la naissance et ils perçoivent les couleurs. Il ne voit pas en noir et blanc. En fait, on avait cette idée de dire qu'il voit contrasté. Il faut beaucoup de contraste. Donc, noir-blanc, c'est très contrasté. Mais si vous mettez du blanc avec du rouge ou du blanc avec du vert, il voit ces différences-là. Alors, le bleu, ça reste encore débattu pour des raisons de maturité des cônes, des récepteurs, en fait. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais il voit bien les couleurs.
Mais comment sait-on ce que voit le bébé, Jean-Rémy Hochmann
Alors, pour ça, on a plusieurs techniques. Mais l'une des techniques qu'on utilise... Alors pendant longtemps, on a utilisé simplement des vidéos du bébé et puis on mesurait la direction en fait de son regard et on codait manuellement ces vidéos en disant est-ce que le bébé regarde vers l'écran, est-ce qu'il regarde pas vers l'écran, etc. Et aujourd'hui, on a des mécanismes des techniques beaucoup plus sophistiquées qui sont ce qu'on appelle les oculomètres qui détectent les yeux du bébé automatiquement et vont mesurer la position de son regard.
Comment le bébé perçoit-il les visages humains ? Est-ce qu'il reconnaît immédiatement ses parents ? Et quid des autres visages qui ne sont pas ses parents ?
Alors, il semble que... Alors, les bébés a une attirance particulière pour les visages. Ça, c'est quelque chose de fortement confirmé par énormément d'études. Mais d'ailleurs, pas que pour les visages humains. Un visage de singe va être exactement également très intéressant. En fait, tout ce qui est à peu près la structure d'un visage, c'est-à-dire deux yeux, une bouche, un nez, ça va attirer l'attention du nouveau-né, déjà dans les premières heures de vie.
Nawel Aboub.
Mais ça, en fait, ce que ça révèle aussi, c'est que notre cerveau, il est programmé dès la naissance, sans avoir besoin d'expérience, il a déjà, comme toi tu l'expliquais par des biais, mais il a déjà un programme qui est là pour détecter ça, ce qui va favoriser ses apprentissages. Après, on sait que tout au long de sa première année, il va commencer à justement bien reconnaître les visages familiers, évidemment sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, etc. Mais il va aussi se spécialiser pour les visages de son entourage. Donc, en fonction de là où vous grandissez, ils vont développer des expertises pour bien détecter, par exemple, les visages asiatiques ou les visages caucasiens, vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui va après, parfois, ramener à avoir des difficultés à reconnaître reconnaître justement certains visages quand c'est pas, quand ils sont pas familiers avec.
Docteur Arnoud Pfersdorf, l'importance d'être avec son bébé dans une interaction tête à tête, avec
c'est
du peau à peau, avec expliquez-nous un petit peu l'importance dans les premiers jours, les premières semaines de ce tête à tête entre l'enfant et son parent.
Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'à peine le bébé est sorti du ventre de sa mère, on le met aussitôt sur le ventre de sa maman ou sur, contre le sein si elle veut allaiter ou pas, et en attendant même de couper le cordon et que la délivrance se fasse pour le placenta. Le toucher, pour nous, pédiatres, est vraiment, on le remarque, le sens le plus important et qu'il faut développer, le pot à peau, le pot à poil quand on le met sur le papa, etc. Et avant, vous parliez de la vision. Nous, ce qu'on remarque, à partir de 3-4 mois, je peux vous dire qu'un nourrisson, il vous voit. Il voit mieux. Et un exemple, tout simple. Quand on va faire les vaccins, on commence les vaccins à 2 mois. On les pose sur le dos. Dans mon cabinet, c'est sur ma gauche, à gauche de mon bureau, c'est pas très loin, c'est à 2 mètres. Et ben, je peux vous dire qu'il y a une différence entre 2 mois et 4 mois. Quand il revient à 4 mois, le nourrisson est couché sur le dos, la même position, en couche, les parents sont là, le parent est là, il tourne la tête vers moi. Il tourne la tête et il me fixe du regard à 4-5 mois. Ça montre qu'il y a une évolution extraordinaire. Il me repère. C'est seulement vers 7-8 mois qu'il va commencer à pleurer parce qu'il m'identifie. Ça, c'est autre chose.
Et nous accueillons Clément. Bonjour, mon cher Clément. Bienvenue.
Bonjour. Bonjour, Ali. Merci.
Vous appelez d'où, Clément ?
J'appelle de Brignoux. C'est pas loin de Grenoble, en Isère.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, le sujet du jour, ça m'a tout de suite fait penser à un texte de Christian Bobin. Dans le Plâtrier Siffleur, il dit, je vous lis un tout petit extrait, « Les bébés sont les grands sages. Ils ont plusieurs vertus, ces gens qui ont très peu de jours. Une de leurs grandes vertus est de ne pas être aveuglés par un savoir. Ils regardent sans morale, sans philosophie, sans religion, sans aucune précaution. » Voilà.
Mais c'est formidable de commencer cette émission avec du Christian Bobin, Nawel Aboub. « Les bébés sont des grands sages ?»
Alors non seulement à mes yeux, on les a. Ce que ça révèle, c'est surtout qu'on les a longtemps trop sous-estimés. C'est ça qui est que probablement cet auteur aussi avait observé.
Jean-Rémy,
ce qui est intéressant, c'est que dans cette citation, on dit que les bébés sont sages parce qu'ils n'ont pas d'a priori, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Moi, je tends à penser qu'au contraire, ils sont sages parce qu'ils ont énormément de connaissances déjà très très tôt avant leur expérience.
Le regard du pédiatre.
Ils ont énormément d'expérience déjà à la naissance. On le sent, tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, c'est pas du tout négligeable. Et c'est là qu'on voit très vite qu'un bébé est très, comment dire, impacté. J'utilise volontairement ce mot, par l'environnement qui va l'accompagner, la bienveillance des parents, des figures d'attachement, et c'est essentiel parce que ça démarre là. Et j'en profite pour dire, un bébé qui pleure, c'est un moyen d'expression pour lui, c'est le seul, enfin, un des moyens le plus important pour communiquer, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si ce n'est pas forcément quelque chose d'important, eh bien, il faut savoir décrypter ce pleur et faire attention au bébé secoué, mais c'est un autre sujet.
Merci beaucoup, Clément, d'avoir cité Christian Bobin. C'est issu de quel texte qu'on puisse retrouver votre citation ?
Avec plaisir, c'est issu du Plâtrier Siffleur qui est sorti en 2018 chez Poésie.
Merci beaucoup, Clément. Et nous accueillons Mathieu. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Nice ?
Oui, c'est ça.
Et vous aviez une interrogation.
Oui, j'ai une question qui me taraude depuis très longtemps, en fait. Je me demande comment les bébés rient. Enfin, si je développe ma question, c'est sur quelle référence se fait le rire d'un enfant ? Nous, quand on rit, c'est parce qu'on a une situation qui est cocasse, qui est rigolote, inhabituelle. Mais les bébés n'ont pas de référence, et je voulais savoir. Par quel moyen, en fait ?
Question passionnante et vertigineuse. C'est vrai qu'on a entendu au début de cette émission un bébé rire. Ça nous a tous satisfaits, mais Jean-Rémy Hochmann...
C'est une très bonne question. On n'a pas vraiment toutes les réponses. J'ai un collègue anglais qui s'appelle Caspar Adiman qui a écrit un livre là-dessus, pourquoi les bébés rient. Disons qu'en tout cas, ils rient quand il se passe quelque chose d'inattendu. C'est l'inattention qui tend à les faire rire. Et l'inattention, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on utilise aussi, nous, dans nos recherches. On va présenter des choses inattendues au bébé pour voir comment il réagit.
On se fait plaisir.
Non, mais il faut aussi le voir, en fait, qu'on a découvert que vraiment l'humour et cette surprise dans les moments inattendus, etc., c'est aussi des mécanismes d'apprentissage qui s'enclenchent, en fait. Et donc, c'est pas pour rien, je pense, qu'en fait, on utilise ces outils, par exemple, le cachet, le coucou, le voilà. Tous ces jeux qu'on fait pour justement créer de la surprise avec l'enfant, etc. Parce que non seulement on voit que ça les fait rire, mais aussi derrière, il y a des enjeux pédagogiques.
C'est quoi le coucou, le voilà ?
Alors ça, c'est une étape essentielle pour nous pédiatres. Et d'ailleurs, dans les carnets de santé, maintenant, il y a 3 pages, 4 pages qu'il faut remplir pour l'examen, le fameux examen du 9e mois, mais il y en a d'autres. Le coucou, le voilà, grosso modo, mais vous m'arrêtez, Nawal, si je me trompe, parce que c'est vrai que les neurosciences évoluent tellement. De la naissance jusque vers 7-8 mois, un bébé ne sait pas vraiment, il est la prolongation un peu de ses parents. Il est la prolongation. Et c'est grosso modo vers 7, 8, 9 mois qu'il prend conscience, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'il est une personne à part entière. C'est toujours ce qu'on a un peu entendu. Mais évidemment, avec la recherche, les choses évoluent. Eh bien, c'est un âge, vers 8, 9 mois, on le sait tous, c'est l'angoisse de la séparation. Le bébé a une seule peur, c'est que le papa, la maman, la personne d'attachement quitte la pièce et il se met à pleurer. Et le coucou, le voilà, on invite à le faire, c'est de mettre un linge sur la tête du bébé et lui dire « Coucou, maman a disparu. Coucou, maman est revenue. Coucou, papa a disparu. » Et il faut le faire très régulièrement. C'est la seule façon de rassurer le bébé et surtout de lui faire comprendre, il y a ce qu'on appelle la permanence de l'objet. C'est-à-dire que maman, papa n'a pas disparu à tout jamais.
Je prolonge la question de Mathieu sur le rire. Quid des neurones miroirs ? C'est-à-dire que quand on est face à un bébé, qu'on lui sourit, qu'on est même qu'on rit, il nous imite ou c'est plus complexe que ça, Jean-Rémy Hochmann ?
Je pense que c'est plus complexe que ça. Dans le sens, les neurones miroirs, c'est un mécanisme qui est intéressant, qui a été découvert, il faut bien rappeler, à chaque fois chez le macaque, chez le singe.
Expliquez ce que c'est en quelques mots, les neurones miroirs.
Ce sont des neurones qui ont été découverts. L'importance du neurone miroir, c'est qu'il a été découvert dans des aires moteurs, donc des neurones qui sont censés contrôler des mouvements moteurs, et qui répondaient également à l'observation de ce mouvement chez une autre personne, enfin chez un autre singe ou chez un expérimenteur humain. Et à partir de là, il y a énormément de théories qui essaient de proposer que c'est par ce mécanisme-là qu'on peut comprendre les actions des autres, et voire même comprendre les émotions des autres, etc. Mais là, il y a quand même un saut qui est un petit peu grand entre ce qui a pu être démontré scientifiquement et les théories qui ont pu être poussées aujourd'hui.
Merci beaucoup Mathieu pour votre question. Comment les bébés voient-ils le monde ? Nos expertes et experts attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. On se retrouve juste après avoir écouté Aretha Franklin, The House That Jack Built, une chanson sortie en 1968, 10h23 sur Inter. This is a house that Jack built, y'all. Down.
grand bien vous fasse. À lire EBI.
Et on vient d'écouter Aretha Franklin, The House, The Jack Bult. Et ce matin, on se demande comment les bébés voient le monde avec la docteure en sciences cognitives Nawel Aboub, le pédiatre Arnaud Ferzorf, avec le chercheur en sciences cognitives Jean-Rémy Hochmann. Alors évidemment, Jean-Rémy Hochmann, la vision est essentielle pour que le bébé traite les informations de son environnement. Et dans votre Baby Lab, vous utilisez notamment une caméra intégrée dans un écran qu'on appelle oculomètre et qui repère les yeux des bébés, ça suit le mouvement de leurs yeux, et cette caméra permet de voir ce qui intéresse les bébés, ce qui les surprend ou ce qui les intéresse pas. C'est ça, c'est grâce à ça que vous faites avancer la science sur comment les bébés voient le monde et leur environnement.
Ouais, tout à fait, parce que quand on essaie de comprendre ce que le bébé comprend, bah, le problème, c'est que contrairement à ce qu'on peut faire avec des adultes, on ne peut pas leur poser de questions. Ou en tout cas, on peut leur poser des questions, mais on n'a pas beaucoup de réponses explicites. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est présenter des stimuli, typiquement sur un écran, ça peut se faire aussi d'une autre manière, et observer les réactions du nourrisson. Et notamment, en effet, avec cette caméra, cet oculomètre, qui est en fait une caméra infrarouge. Si vous vous souvenez, à une époque, quand on prenait des photos avec un flash, on avait des yeux rouges sur les photos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fond de la rétine reflète particulièrement la lumière rouge, et donc en effet, avec les images infrarouges, on peut détecter très facilement les pupilles, et à partir de là, avec un modèle du visage, un modèle de l'œil, calculer la position du regard d'un bébé ou d'un adulte ou de n'importe qui.
Nawel Aboub, d'autres expériences que vous avez pu faire pour justement mieux comprendre la perception du monde des bébés, exemple ?
Alors moi, ma spécialité, c'était la neuroimagerie, donc nous, on utilisait des méthodes pour comprendre dans le cerveau comment il était constitué, comment il répondait aux stimuli qu'on lui présentait. Et justement, sur cette idée de croire que dès la naissance, leur cerveau, il est pas assez, que tout se mélange à l'intérieur, qu'il n'est pas assez mature.
Dans l'idée reçue, c'est que le cerveau des bébés est immature.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il l'est, mais en fait, l'immaturité, ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas fonctionnel. En réalité, le cerveau d'un nouveau-né, il a toute une architecture qui est très semblable à celle de l'adulte. Et puis, par ailleurs, il a déjà, en fait, des capacités assez incroyables. Moi, quand je présentais des sons qui ressemblaient à du langage, soit qui avaient des sonorités un peu comme leur langue maternelle, ou bien une langue étrangère, ils étaient tout à fait en capacité de le faire. Leurs neurones dans les cortex temporaux répondaient, avaient déjà appris in utero des caractéristiques de leur langue maternelle. Donc la preuve que leur cerveau est non seulement fonctionnel et bien puissant, et là, et ça, grâce à la neuroimagerie, ça a tout changé.
Tous les neurones sont présents à la naissance, même s'ils ne ressemblent pas exactement aux neurones des adultes. En revanche, les bébés ont besoin de trois fois plus de temps, c'est ça, pour comprendre ?
Alors déjà, tout à fait. Alors les neurones ont... sont tous là, mais ils sont pas exactement comme celles des adultes. Ils sont en train de grossir, de grandir, ils poussent pas comme des haricots, ils poussent comme en trois dimensions et ils se connectent les uns avec les autres. Et après, il y a une gaine de myéline qui va se mettre tout autour en fait, de ces connexions qui vont permettre d'augmenter la vitesse de traitement de leur cerveau. C'est pour ça que justement, par exemple, pour la perception des visages, on a vu qu'à 3 mois, le temps de perception d'un visage prend 3 à 4 fois plus de temps. Alors, quand on dit 3 à 4 fois plus de temps, on est en millisecondes. Donc, au lieu que ça soit quelques... Ça va prendre un peu plus de temps, mais ça reste tout de même, vous le voyez, de toute façon, il va vous reconnaître, il va vous... Mais donc, il faut vraiment prendre en considération que le cerveau de bébé ne fonctionne pas exactement comme celle d'un adulte.
Et qu'est-ce qui favorise toutes ces connexions neuronales ?
Alors, une chose qui est très importante, c'est vraiment ce que nous, on appelle l'enrichissement de l'environnement. Alors, ça, c'est le terme scientifique, tout ça pour ces fameux coucous cachés, c'est tous ces jeux, ces interactions, ces questions que vous allez poser à l'enfant, d'attendre sa réponse, de pouvoir se mettre à hauteur, de pouvoir aller chercher des choses qu'il aime bien, de pouvoir rigoler avec lui.
Un environnement sécure.
Un environnement sécure où effectivement vous allez être fiable, c'est-à-dire que si jamais il pleure, bah vous allez répondre à ses pleurs. Alors parfois on n'a pas tout le temps la solution aux pleurs, mais au moins d'être là, d'être présent, ça c'est très très important, ça crée les liens de confiance que les enfants ensuite vont vous porter.
Docteur Arnaud
Ferzorf. C'est essentiel, cette notion de confiance. Et alors il faut apprendre très tôt à ne pas mentir à un nouveau-né. Et ça, nous le faisons dès la maternité. Un exemple, quand on commence à faire un vaccin, autrefois on disait, on entend même encore des grands-parents, je me permets de le dire parce que je suis grand-parent, et évidemment on ne fait plus ça maintenant, de dire « mais le docteur, il ne va pas te faire mal, c'est rien du tout ». C'est une catastrophe parce que l'enfant, même le nouveau-né, il entend des mots qui ne sont pas justes, Et s'il entend des mots qui ne sont pas justes, il les retient quelque part dans son cerveau et il va perdre confiance en l'adulte qui est son référent. C'est pour ça que maintenant, quand nous faisons un vaccin, les premiers vaccins à 2 mois, bah, ça fait mal. Eh bien, l'enfant est dans les bras du papa ou de la maman, il est rassuré, il est dirigé vers le médecin, le pédiatre qui va faire le vaccin. Eh bien, avant de piquer, on dit à l'enfant, au nouveau-né, il a à peine 2 mois, on lui dit « je vais te faire un vaccin », il entend le mot « vaccin », « je vais te faire un peu mal, mais ça va passer ». Et on pique. C'est très important.
Jean-Rémy Hochmann.
Oui, je voulais juste dire quelques mots justement sur l'immaturité du cerveau, à la fois la maturité et l'immaturité. On sait que quand il y a dans la perception visuelle, en fait, il y a des processus qui ont lieu de manière complètement inconsciente, de manière automatique, et puis il y a des processus au contraire qui mènent ensuite à la perception consciente, c'est-à-dire on est capable, nous, de dire bah là, je vous vois, vous, Ali, en face de moi, je pourrais vous décrire, etc. Ce qu'on voit, c'est que, et on sait que cette deuxième partie prend plus de temps, bien sûr, que la partie inconsciente. Chez l'adulte, ça dure à peu près 300 millisecondes. Nous, on mène des études au laboratoire pour étudier justement ça. Et alors, d'abord, la première chose qu'on voit, c'est que dès les tout petits, déjà à 5 mois, on l'a montré, mais peut-être même avant, la structure qui permet ces deux étapes de la perception consciente sont en place déjà chez les tout petits. Et par contre, comme le disait Nawal, c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Nous, on estime que cette deuxième étape de la perception consciente, à 5 mois, est de 6 à 7 fois plus lente que pour l'adulte. C'est-à-dire qu'ils mettent plus d'une seconde à percevoir de manière consciente un visage qui est présenté face à eux. Et ce que ça veut dire, ce qui est intéressant, je pense, c'est que au lieu de... Ça ne veut pas dire qu'ils ont une perception lente du monde. Au contraire, le monde qu'ils voient est extrêmement rapide. C'est comme si on passait le monde en accéléré pour eux. Donc ça veut dire que les choses qui bougent un peu trop vite, elles vont être complètement filtrées de leur perception et ils ne vont pas les traiter à fond.
Nawal Aboub.
Oui, c'est aussi pour ça que justement, il y a vraiment des grandes différences dans le développement, il faut vraiment dire, entre 0 et 6 mois, la lenteur des mouvements, c'est aussi important. La lenteur, même dans la parole, quand vous vous adressez à l'enfant, de pouvoir ralentir, c'est se mettre à hauteur de son cerveau, j'ai envie de dire. Et puis après, de 6 à 12 mois, on voit bien que il commence à justement être beaucoup plus à l'aise. Ça reste encore, il faut être dans le moyen. Et après, on passe vraiment... Donc il faut se dire que parfois, quand les bébés détournent votre regard parce que vous leur parlez, c'est pas qu'ils s'intéressent pas à vous, c'est que parfois, ça va trop vite.
Ça
pour
va
eux.
Trop vite.
Donc c'est la même chose que pour les mouvements que vous pouvez avoir, ou les jouets, vous savez, c'est pas pour rien qu'on met les petits autour du lit, les espèces de...
Les mobiles,
voilà, c'est ça, qui ont une certaine vitesse. Donc parce que, justement, c'est pas qu'ils sont pas en mesure de pouvoir le faire, c'est que vraiment, leur cerveau est en train de se développer.
Et du coup, pardon, on parlait tout à l'heure d'environnement enrichi, mais du coup, attention aussi à la surstimulation. Parce que la surstimulation, ça peut être problématique. Les bébés ont des moyens de protection, donc en effet, ils vont détourner le regard, ils vont détourner l'attention, mais parfois ces mécanismes peuvent être déficients et ça peut poser des problèmes.
On n'a pas trop tendance à les surstimuler, les nourrissons entre 0 et 6 mois, puisque Nawal Aboub nous dit qu'il vaut mieux privilégier une certaine lenteur. Est-ce qu'on n'a pas tendance à un petit peu trop
Je pense pas, je pense que la plupart des parents s'adaptent naturellement à leur bébé. Le bébé se défend en se désengageant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui est technologie moderne, tout ce qui est écran, qui sont pensés pour des enfants beaucoup plus âgés, qui sont pensés pour des adultes, et absolument pas pour des nourrissons. D'ailleurs, on rappelle une fois de plus les recommandations qui ne sont pas d'écran avant 3 ans.
Oui, c'est facile à retenir. Non,
moi, je voulais vraiment, sur cette idée de la surstimulation, j'ai envie de dire que c'est qu'une probablement une toute petite partie de la population. Par contre, on a quand même face à quelque chose qui est très important dans notre pays, c'est qu'il y a des enfants qui vivent dans des environnements où ils ne sont pas suffisamment stimulés sur le plan linguistique, moteur, enfin, sur plein de choses. Et donc, c'est là où justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, que ce soit dans tous les lieux d'accueil, en crèche, etc. C'est très important de former les professionnels pour qu'elles puissent s'adapter aussi à ça et stimuler les enfants sur ce plan-là. Parce que dans certaines familles, on ne parle pas avec les enfants, pas parce qu'on veut leur faire du mal, parce que parfois il y a des méconnaissances, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des environnements de précarité. Donc c'est pour ça que, pour moi, la surstimulation, c'est vraiment qu'une... Enfin, il n'y a qu'une certaine partie de la population qui est liée à ça, mais la majorité, ce n'est pas ça. Donc il faut parler avec les bébés.
Docteur Ferzdorf.
L'apprentissage du bébé, du nourrisson, on le voit. Nous, on a la chance de voir les bébés la première année, tous les mois. Et on a un prisme qui est totalement différent par rapport aux parents qui, eux, il y a une évolution tous les jours, il y a 1000 choses qu'un nouveau-né apprend chaque jour, un nourrisson, que les parents ne voient pas forcément. Un truc tout bête, qui est très intéressant, vers 8 mois, 7-8 mois, on en parlait avant, l'enfant va rentrer dans la période de l'angoisse de la séparation. Jusqu'à cet âge, quand moi, pédiatre, nous nous penchons vers le nourrisson pour l'examiner, il est tranquille. Il se laisse faire, on va pouvoir examiner la bouche et tout ça. À partir de 7-8-9 mois, dès qu'on s'approche, qu'on se penche, il commence à crier, à hurler, à paniquer un peu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des mots qu'il comprend déjà, il a déjà un vocabulaire, c'est très intéressant. On lui dit, tu vas montrer la bouche à papa, ou tu vas montrer la bouche à maman. Le mot papa, le mot maman, est déjà très intégré, et le bébé se calme aussitôt.
Et nous accueillons Gilbert. Bonjour Gilbert, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Vous appelez de Dordogne.
C'est cela, oui, oui.
Quelle est votre question, Gilbert ?
Eh bien, je voulais savoir, par rapport à des expériences qui sont faites sur les singes, comment réagit un bébé, à partir de quel âge, il réalise qu'il est devant un miroir. Si on est derrière lui et qu'on fait un signe, il doit se retourner s'il a conscience que c'est un miroir. Sinon, il va foncer sur le miroir. Voilà, j'aimerais savoir à partir de quel âge il peut avoir conscience que ce n'est qu'un miroir.
Jean-Rémy Hochmann.
Je crois que dans les études de base, c'est vers 18 mois. Mais c'est quelque chose qui est maintenant un peu remis en question. On pense qu'en présentant les choses d'une certaine façon, le nourrisson peut peut-être passer ce test avant. Ce test, il est important parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le bébé ou l'enfant a conscience de soi, a conscience de lui-même. On a maintenant des études, des recherches en tout cas qui sont menées, qui tendent à penser que cette conscience de soi est probablement présente déjà beaucoup plus tôt qu'à 18 mois.
Merci beaucoup Gilbert de nous avoir appelé. Alors on parle ce matin de la manière de voir le monde des bébés. Quand on porte un bébé, vaut-il mieux que son bébé soit face à soi, quand on se promène dans la rue, qu'il soit porté avec la tête vers le parent, ou vaut-il mieux que ce bébé voit le monde ? Vous savez, on voit beaucoup de bébés portés où ils sont face au monde, dans la rue. Qu'est-ce qui vaut mieux, Jean-Rémy Hochmann ? Est-ce qu'il y a des recommandations ? Est-ce que, par exemple, le fait que le bébé soit face au monde, entre guillemets, à la rue, au bruit, à des peut-être surstimulations, qu'est-ce qu'on sait ?
En toute sincérité, je ne sais pas. Je peux juste vous donner une anecdote pour dire que parfois, il faut faire... Donc, je pense, a priori, c'est pas du tout une mauvaise chose qu'il soit face au monde et qu'il puisse voir ce qui se passe autour. Par contre, il faut faire parfois attention. Donc là, c'est une anecdote de papa. moi, mon premier-né, Émile, on habitait au premier étage et quand on descendait les escaliers, il était pris d'une peur panique, mais vraiment, il faisait un visage terrifié parce qu'il avait l'impression, en fait, d'être projeté...
Donc il était face aux escaliers.
Dans le vide, voilà, il avait l'impression de partir dans le vide et je m'en étais pas rendu compte, il avait extrêmement peur. Le deuxième, Amos, pas du tout, il pouvait y aller tranquille.
Le regard du docteur, du pédiatre.
À partir de 3-4 mois, c'est vrai, on les porte en ventrale. Il faut faire attention effectivement à ce que l'enfant va voir, s'il y a une agitation, un vide, il n'appréhende pas encore ça, donc il faut l'apaiser et y aller effectivement mollo. Mais il y a une souplesse extraordinaire de la colonne cervicale chez un nourrisson qui fait que s'il est en ventrale, et, enfin, qui regarde vers devant et qui veut s'assurer que papa-maman est là ou qui le porte, il met la tête en arrière, il regarde, il est rassuré, il arrive à switcher. Dans la vitrine, dans la vitre déjà, on en parlait avant, un nourrisson de 3-4 mois va reconnaître son parent dans la vitre. Il ne se reconnaît pas lui-même, mais il va reconnaître. Et quand on le prend le ventre, enfin la tête contre le parent, ben, il n'y a rien de plus beau que de regarder ça dans la rue, ou dans un parc ou dans le train. Vous voyez toutes les gymnastiques que font les nourrissons pour voir et découvrir le monde autour d'eux.
Moi, j'aimerais juste ajouter, vraiment, observez votre bébé, parce que c'est lui qui va vous indiquer ce qu'il a envie de voir. Alors, observez-le, s'il est contre vous, qu'il ne fait que se retourner de l'autre côté, tournez-le, s'il est, vous, il tournez, qu'il n'est pas bien, retournez-le vers vous. Donc vraiment, parce qu'en plus, les bébés, ils ont envie de dormir, il faut qu'ils se mettent dans un... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, observez, c'est lui qui va aussi vous guider sur ses intentions.
On a parlé de la vision, mais que sait-on des autres sens, de l'odorat, du toucher, évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'importance du peau à peau. Mais qu'est-ce qu'il sent ? Qu'est-ce qu'il entend, docteur Fersdorf ?
Alors, il y a des études fabuleuses.
Entre 0 et 10-12 mois.
Alors, les sens, c'est le nouveau-né, le nourrisson vit par les sens d'une manière énorme. C'est le lien considérable avec l'entourage. On parlait du pot à pot avant, qui est essentiel. L'odorat, le goût. Il y a des études, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait des chercheurs qui venaient à la maternité, mais ils faisaient un travail énorme. On était dans les années 80. Mmh. Nous, on les regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes, en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils veulent prouver ?» Ils faisaient des recherches sur l'odorat, le goût, de ce que mange la maman pendant la grossesse, de l'ail, du ceci, du cela. Et après, ils revenaient pour refaire des études, si le bébé tourne la tête pour tel et tel aliment que la maman a mangé pendant la grossesse. Et ils venaient faire les mêmes études dans les semaines et les mois qui suivaient l'accouchement. Donc l'odorat, le goût sont essentiels. Et l'audition, on le remarque, un bébé qui vient de naître a une espèce d'hyper acousie. Le son est très amplifié. Et si on fait un bruit, il a tendance à sursauter. C'est un réflexe. Qui est très important chez les nourrissons.
Alors justement, maintenant, on a beaucoup avancé, surtout sur la période prénatale. En fait, les sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc., ils se développent déjà in utero et c'est déjà fonctionnel. Donc déjà, dès 26-27 semaines, on voit qu'ils réagissent. Même, une maman pourra vous dire, oui, quand il y a eu un bruit fort, hop, il a sursauté. Donc les enfants ne sont pas ils ne vivent pas dans un monde isolé. Ils sont connectés au monde. Et donc, du coup, ça veut dire déjà que leur cerveau est en mesure de pouvoir capter ces informations et y réagir. Ça, c'est tout nouveau. Avant, on ne savait pas tout ça.
Jean-Rémy Hochmann.
Il y a aussi ce qu'on appelle... il y a une théorie qui propose que les bébés seraient essentiellement synesthésiques, c'est-à-dire qu'il y a une intégration des sens. Et notamment, on a des collègues à Dijon, que je salue, notamment Dr Leleu, qui ont montré que l'odorat a un impact sur la perception visuelle. Donc, pour revenir à la vision, ils montrent que les visages sont mieux perçus si l'odeur de la maman est présente que si l'odeur de la maman n'est pas présente. Où il y a une odeur de voiture ou autre chose. Donc il y a une intégration, un impact d'un sens sur l'autre dans les tout premiers mois.
Mais même, si je peux me permettre, il y a une expérience incroyable de Arlette Strery qui avait montré que quand les bébés touchaient un triangle, qu'on leur mettait un petit triangle ou un petit cylindre dans la main et qu'on leur projetait à l'écran cette forme-là, eh bien les bébés faisaient bien le lien entre ces deux formes. Si vous mettiez un triangle dans la main et que vous mettiez un triangle sur l'écran et qu'après vous leur mettez un carré, eh bien ils étaient surpris. Et on peut se dire, mais à quel âge ils ont déjà cette capacité-là? Et bien c'est dès la naissance. Donc pour vous montrer que déjà, ce qu'on appelle la cross-modalité, donc de mettre en lien à la fois le toucher et la vue, est déjà présent. Donc leur cerveau est en capacité de pouvoir faire ces traitements de très haut niveau en réalité.
Docteur Fersdorf,
La diversification alimentaire en est un bon exemple. C'est extraordinaire, on commence à diversifier à 5 mois, puis plus tard on commence à donner des morceaux vers 7-8 mois, la DME pour certains. Et bien la forme de l'aliment commence à avoir une extrême importance pour un enfant de 7, 8, 9 mois, la couleur de l'aliment. Et il y a des parents qui sont démunis parce que à peine l'aliment se rapproche, c'est pas la couleur habituelle ou c'est une couleur qui lui plaît pas, le nourrisson va dire non à sa façon, rejeter la tête en arrière, il en voudra pas et il s'exprime. Il faut savoir l'écouter, comme vous le disiez avant.
La DME.
Ah, la DME, c'est...
C'est quoi la DME ?
Diversification menée par l'enfant.
Et nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Philippe ?
J'appelle d'Argentan, en Corrèze.
Enchanté. Quelle est votre question, Philippe ?
Eh bien, moi, je voulais aborder la question du besoin du bébé qui, s'il faut le rappeler, est une personne dès la naissance. De communiquer, et j'ai une amie qui a pratiqué le langage des signes dès la naissance avec son bébé, et je voulais vous demander si c'est une pratique dont vous allez... que vous allez aborder au cours de l'émission.
Eh bien, on l'aborde avec vous à l'instant même, Nawel Haboub.
Alors oui, c'est une pratique qui est très à la mode. Ça marche bien. Alors, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que si ça facilite la communication, c'est pas facile de communiquer avec un tout petit. Donc, si ça vous aide justement à bien comprendre ou à avoir des codes de communication communs, c'est très bien. Par contre, la deuxième chose qu'il faut vraiment mettre en place, c'est qu'il ne faut pas simplifier le langage. Il faut vraiment garder la richesse du langage, garder la complexité des phrases et pas les réduire. Et parce que souvent, on a tendance à faire... parce que c'est pas vraiment la vraie langue des signes. Parce que la vraie langue des signes, c'est une langue justement complexe. Mais mais celle-ci, elle est plus réduite. Et ça, il faut être vigilant parce que les bébés, pour apprendre, ils ont besoin, contrairement à ce qu'on pense, de la complexité. Donc n'hésitez pas aussi à continuer à garder ça, plus avec les signes, c'est très bien.
On parle de langage des signes, mais on sait aujourd'hui que la capacité du cerveau des bébés à analyser la parole est déjà fonctionnelle un mois avant la naissance, c'est bien ça, Nawel Aboub ?
Tout à fait, ça c'est une découverte incroyable de ces 20 dernières années, c'est qu'en fait ils sont tout à fait en mesure de comprendre et déjà d'entendre des choses. Après, dans le ventre, il faut se dire qu'ils n'entendent pas la même chose. C'est comme s'ils étaient dans une piscine, l'eau en fait va déformer, va filtrer pardon, la parole, donc ils peuvent entendre la musique de la parole. Donc,
la prosodie, la tonalité.
Donc il ne faut pas hésiter à écouter des musiques, à leur parler, ils entendent, et d'ailleurs grâce à ça, ils vont déjà commencer à apprendre leur langue maternelle.
Jean-Rémy Hochmann.
Donc en effet, il y a cet intérêt pour la parole humaine dès avant la naissance et probablement des mécanismes déjà dans le cerveau pour traiter ce signal particulièrement. Et par contre, après, il y a quand même tout un développement justement qui va avoir lieu, notamment dans la première année de vie. Pour donner un exemple fameux, comme vous le savez, dans différentes langues, il y a différents sons. Donc, par exemple, les Espagnols tendent à ne pas faire la différence entre « ba » et « va », tandis que nous, on l'a fait très bien. Nous, on a beaucoup de mal avec le « th » anglais, « the » ou « f » ou quelque chose comme ça. Les bébés, les nouveau-nés, qu'ils soient nés en Chine, aux États-Unis, à Taïwan ou ailleurs, sont tout à fait capables de faire la distinction entre tous ces sons. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au cours du développement, ce n'est pas qu'ils apprennent à distinguer de nouveaux sons, au contraire, ils vont perdre la sensibilité aux sons qui ne sont pas utilisés dans leur langue, qui n'ont pas de rôle particulier dans la langue.
Jean-Rémy Hochmann, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur vos expériences au Babylab pour mieux comprendre comment le cerveau des bébés voit le monde. Vous avez recours à des séries d'expériences. Par exemple, vous pouvez disposer sur la tête d'un bébé un petit bonnet équipé de capteurs qui permet d'enregistrer l'activité électrique cérébrale du bébé pendant que vous lui présentez des vidéos ou des sons. Voilà un exemple de recherche que vous menez. Donnez-nous un exemple concret.
Oui, tout à fait. Donc, nous, il y a trois techniques principales qu'on utilise au laboratoire. Donc, la première, on en a déjà parlé, c'est l'oculométrie. Donc, ça va être se baser sur le regard du bébé, essayer de voir ce qui l'intéresse, les choses qu'il peut anticiper aussi par son regard. Et puis, on a l'électroencéphalographie, donc où on va enregistrer en fait l'activité électrique spontanée du cerveau. Et enfin, la near infrared spectroscopy, donc la spectroscopie à spectre proche infrarouge, là en fait c'est la même technique que ce qu'on peut utiliser pour mesurer la saturation en oxygène du sang quand on va à l'hôpital, sauf qu'au lieu d'être placé sur le doigt, c'est placé sur le crâne, et comme ça en fait on mesure l'oxygénation du sang à la surface du cortex, et on a une information justement sur l'activation de certaines aires cérébrales.
Alors on se retrouve juste après avoir écouté M et Tiken Jaffa Kolik, interprète Nidibou. Il est 10h48 sur France Inter.
Un souvenir ou un délire, peut-être n'est-ce qu'un mirage sous cet acacia. Un jour magique, le coup classique, ne retrouve-t-on jamais le bonheur de cette nuit-là.
Miyakazo,
je n'ai pas rêvé.
Miyakazo,
je n'ai pas rêvé, non.
Miyakazo,
je n'ai pas rêvé.
Miyakazo,
je n'ai pas rêvé.
Allez mon meilleur ami.
vient d'écouter M et Tiken Jah Fakoly qui interprétaient Nidibou.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, à l'occasion du lancement de la radio numérique Mon Tout Petit France Inter, le nouvel éveil sonore des 2-6 ans, et on s'intéresse à la manière de voir le monde des bébés avec la docteure en sciences cognitives Nawel Aboub, avec le pédiatre Arnaud Ferdorf et avec le chercheur en sciences cognitives Jean-Rémy Hochmann. Et nous accueillons Lucille. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous Lucille ?
J'appelle de Paris.
Alors vous avez un bébé de 6 mois, c'est ça, 6 mois et demi ?
C'est ça.
Oui.
Et on a observé dès les premières semaines qu'il rigolait dans son sommeil. Mm-hmm. Et on se demandait à quoi il pouvait bien rêver.
Si on pouvait savoir. Est-ce qu'on peut savoir ? C'est une question très intéressante. Nawel Aboub, est-ce qu'on sait ?
Alors pour les bébés, je ne sais pas, mais en tout cas chez l'adulte, oui, il y a des expériences qui essayent de reconstruire, de recoder les rêves qu'on fait, et ça a l'air de plutôt bien marcher sur certains aspects.
En tout cas, le bébé rêve, Jean-Rémy Hochmann.
On ne sait pas vraiment, parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a de ce qu'on appelle la phase sismique, qui ressemble à la phase du sommeil paradoxal, dans laquelle on pense qu'ont lieu la majeure partie des rêves chez l'adulte. Mais de là à dire que le bébé rêve de manière consciente, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sommeil, c'est fondamental dans les phénomènes d'apprentissage. On sait que pendant le sommeil se rejoue ce qui s'est fait la journée. Alors certaines recherches montrent même à 3 à 4 fois. En fait, on rejoue 3 à 4 fois plus rapidement ce qui s'est fait dans la journée. Et il y a beaucoup de chercheurs qui disent que justement, c'est pas pour rien que les bébés dorment beaucoup. C'est parce qu'ils sont en acquisition de très nombreuses compétences et ça les aide à justement stabiliser, à consolider ces compétences.
Et le pédiatre Arnaud Ferdorf approuve et acquiesce.
Oui, et puis il y a ces fameuses phases de sommeil ultradien, les 2-3 premiers mois, et ensuite le sommeil circadien avec la mélatonine qui s'installe.
Bon, Lucille, ça restera un mystère, hein, le rêve des bébés.
Mais j'ai quand même envie de dire que s'il rigole, c'est peut-être une preuve justement qu'il rêve, et donc peut-être
et qu'il est
une découverte.
En tout cas, il a l'air heureux
et qu'il a vécu les trucs bien juste avant, et voilà, c'est chouette.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, et nous accueillons Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour Anissa, vous êtes sur France Inter, dans Grand Bien vous fasse, bienvenue.
Merci.
Quelle est votre question ?
Alors ma question, alors j'ai la chance d'être tata de 3 neveux et nièces, et le petit dernier a bientôt 10 mois, dans quelques jours, et je m'interrogeais sur, est-ce qu'il reconnaît mon visage, même si je le vois environ 2 fois par mois ? Est-ce qu'il a cette capacité de reconnaissance faciale ?
Jean-Rémy Hochmann.
J'ai pas la réponse absolue, mais c'est bien possible. La perception des visages est quelque chose d'extrêmement efficace chez l'humain en général et chez le nourrisson en particulier. Il y a des chercheurs qui pensent d'ailleurs que c'est une des choses qui nous différencie des autres espèces de primates. Donc c'est fort probable qu'avec même peu d'expérience, mais une expérience régulière, le bébé vous reconnaisse.
Après, il ne faut pas oublier que les bébés, ils vous voient, mais aussi ils vous entendent. Donc la voix, elle est aussi très importante. Ils ont aussi une bonne mémoire en fait, auditive de la tonalité de la voix. Et après, il n'y a pas que se voir en vrai, même avec les vidéoconférences. Il y a plein de manières d'interagir avec un enfant. Et ça va stimuler aussi le lien que vous avez avec lui.
J'allais dire ça, les visios. Alors là, le bébé, il a droit à un écran, juste pour ça. Pour échanger avec les grands-parents, les tatas, etc., qui ne les voient pas forcément souvent. Il y a le visage, il va reconnaître, il va s'habituer. Il y a l'expression, le sourire, il y a beaucoup de choses. Il intègre, et puis la première fois qu'on le revoit au bout de 2-3 mois, on voit bien s'il y a un sourire. Il y a une période d'adaptation qui, en général, est très rapide.
Merci beaucoup, Anissa, de nous avoir appelés. Bonjour Elsa, bienvenue.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question.
Vous appelez de Paris.
Oui, je suis psychologue et je travaille auprès de femmes victimes de violences conjugales. Je me demandais si vous avez des notions sur le fait que, de la manière dont un bébé peut percevoir le monde quand il évolue au climat ou une de ses figures d'attachement ou des frères et sœurs sont victimes de violences.
C'est une très très bonne question, Elsa. Est-ce que la violence impacte la vision du monde, la manière de percevoir le monde du bébé, docteur Ferzorf?
Ah bah écoutez, pour vous dire que la profession a évolué, un bébé qui a des problèmes d'alimentation, qui n'a que 2 mois, 3 mois, qui refuse de prendre le sein, qui refuse de prendre le biberon, qui rejette la tête en arrière. Avant, on disait, c'est les dents, c'est ceci, c'est cela. Mmh. Je peux vous dire que maintenant, quand on voit des bébés, systématiquement, on s'interroge, on questionne les parents, mais avec tact, bien entendu, pour savoir qui s'en occupe, quel est l'environnement, s'il y a du bruit à la maison. On termine toujours en disant, est-ce qu'il y a des cris ? Et quelles sont les figures d'attachement ? Qui le garde ? C'est extrêmement important pour nous parce qu'on sait qu'un bébé, dès les premières semaines, va être impacté par des cris, un environnement délétère et en particulier des violences physiques et par les cris. Un conjoint qui crie auprès de la maman, le bébé le ressent.
Jean-Rémy Hochmann.
Oui, non, il y a un truc qu'on appelle une chose, pas un truc, quelque chose qu'on appelle l'amnésie infantile, qui fait qu'en tant qu'adulte, on se souvient pas de ce qui nous est arrivé avant 3 ans. Donc on a pu penser à cause de ça qu'en effet tout ce qui se passe avant 3 ans n'a aucune importance, mais comme vous le disiez très bien, c'est pas vrai. Bien entendu que les situations, surtout les situations extrêmement stressantes, les situations à risque, laissent une trace et
ça affecte la perception du monde et les apprentissages du bébé.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est des sujets qui sont très douloureux pour tout le monde, même dans la recherche. Il y a aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des impacts à court et à long terme. Mais il faut aussi se dire que c'est quand il y a des prises en charge, quand il y a des professionnels qui détectent ça, où il y a un accompagnement, le long terme peut s'effacer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que ces prises en charge très précoces dont on parle de plus en plus, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment fait des bons géants avant, comme tu disais, Jean-Rémy, avant 3 ans, on se disait, mais de toute façon, ils se souviendront de rien, ils ont une mémoire de poisson rouge. C'est pas le cas. Et donc, cette prise en charge avec les dépressions postpartum, toutes ces choses où la violence dans les familles doivent être mieux
est essentiel.
Merci beaucoup Elsa, et on termine avec vous Thibaut, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour Thibaut, quel est votre témoignage?
Alors nous on voulait juste dire que notre petite fille de 3 mois a écouté attentivement l'émission et était globalement d'accord avec ce qui était dit et vous remerciait de faire valoir leur voix.
Écoutez, on est très heureux que... Comment s'appelle votre petite fille?
Lisa.
Eh bien, on est très heureux que Lilia nous ait écouté, qu'elle approuve. C'est une future auditrice. En tout cas, elle va pouvoir écouter mon tout petit France Inter qui débute aujourd'hui. Parce que le communiqué de presse dit que ça commence à 2 ans, mais Nawel Abboub, ça peut commencer avant.
Bien sûr, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. On peut commencer bien plus tôt que ça.
Merci beaucoup Thibaut de nous avoir appelé. Merci pour ce clin d'œil. On consacrera d'autres émissions aux bébés, notamment au langage des bébés. Il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. Merci Nawel Abboub, je recommande vraiment livre de poche, La puissance des bébés, stimuler le cerveau dès le plus jeune âge. Merci Jean-Rémy Hochmann et merci docteur Arnaud Ferzorf, Bébé premier mode d'emploi. Plus de 100 fiches qui répondent à toutes vos interrogations. C'est publié chez Hachette. Demain, on s'intéresse aux additifs et aux métaux lourds présents dans notre alimentation et qui nous rendent malades. Vos questions et vos témoignages, demain dès 10h au 01 45 24 7000. Bonjour mon très cher Nagui.
Qu'est-ce qui est lourd et qui rend malade ? Merci pour l'enchaînement. Aujourd'hui, c'est
pas vous.
Alice Winocourt et Louis Garrel pour Couture qui sont nos invités.
Bonne émission. Merci. Nagui, à tout de suite.